Ciel FM. Vous écoutez Bonjour Grand Portage avec Kevin Beaulé.
7h10, hier, c'était la rentrée pour les élus de la ville de Rivière-du-Loup. C'était une première séance publique du conseil municipal en 2023, après, bien sûr, les vacances de la période des fêtes. La dernière fois qu'on a eu droit à une séance, c'était le 19 décembre dernier. À ce moment-là, c'était une séance extraordinaire et on a présenté à ce moment-là le budget pour l'année 2023. Mais hier, c'était le retour aux choses sérieuses. Et pour en parler, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, qui est en ligne. Bon matin, M. Bastille.
Bonjour, Kevin.
Donc, première séance hier, une séance, somme toute, assez courte si on regarde le nombre de points, mais qui s'est allongée en raison de la période de questions. Mais je veux qu'on revienne sur certains points hier qui ont été discutés et celui qui a attiré mon attention davantage parmi tous les autres, c'est l'entretien ménager des bâtiments municipaux. J'en ai parlé en ouverture, mais on le sait qu'on paye plus cher pour tout et ça va coûter quand même beaucoup plus cher pour entretenir nos bâtiments municipaux en 2023, là.
Effectivement, quand l'équipe a ouvert les soumissions puis qu'on avait juste un soumissionnaire puis qu'on a vu le prix, ben c'est sûr qu'il y a un grand questionnement qui s'est mis en place. Puis là, tout ce qu'on veut analyser, là, on s'est donné 3 mois avec notre fournisseur de services actuel pour vraiment réévaluer puis tout regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis je le disais un peu en séance hier, est-ce que on va avoir un service 5 étoiles, là? Puis c'est pas parce que les gens, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est juste que dans les contrats antérieurs, il y avait tout le temps un homme d'entretien ménager qui passait soit à l'hôtel de ville ou dans les édifices publics à municipaux à tous les jours. Fait que là, on regarde, ça peut être 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. En même temps, est-ce qu'on va avoir une méthode hybride, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des bâtiments qui seraient confiés directement à des employés municipaux, puis on en garde certains à contrat, mais tout est sur la table, puis l'équipe administrative travaille là-dessus présentement, là, au cours des prochains mois pour nous arriver avec une solution, puis tout est envisagé, si on veut.
Est-ce qu'on a eu des explications? Parce que hier, on a mentionné que pour la Maison de la culture, ça a augmenté de 113%. On peut comprendre avec la nouvelle bibliothèque qui vient d'ouvrir ses portes, mais on disait que, pour exemple, l'hôtel de ville, c'est 50% plus cher. Et là, l'hôtel de ville n'a pas changé. C'est la même bâtisse, c'est les mêmes pièces, c'est les mêmes escaliers. Est-ce qu'on a eu des explications pourquoi ça coûte si cher que ça?
Ben écoutez, moi, c'est sûr que c'est pas venu à mes oreilles. Peut-être que ils ont peut-être jasé avec le soumissionnaire, mais tu sais, par contre, il ne faut pas s'embarquer là-dedans nécessairement. C'est une soumission, c'est déposé. Pourquoi ça coûte plus cher? Ben c'est bien évident aussi. En tout cas, ça peut expliquer en partie le. Les salaires, la rareté de main-d'œuvre, ça a tout amené, si on veut, les salaires à la hausse. Fait que il y a peut-être ça aussi, trouver du monde, ben c'est pas facile. Fait que c'est pas facile pour la ville, c'est pas facile non plus pour nos entreprises privées. Fait que si les gens ils veulent avoir des hommes ou des femmes d'entretien, puis que là, ils demandent un salaire, je sais pas moi, de 22, 25, 28 $ de l'heure, ben il faut qu'il y ait juste les contrats en conséquence. Moi, je pense que ça peut expliquer en partie. C'est peut-être pas tout ça qui fait ça, comme on dit, mais je pense qu'il peut y avoir une partie d'explication là-dedans.
Donc, si je comprends bien, l'entreprise qui est en charge de l'entretien a décidé de prolonger le contrat avec la ville pour quelques mois en attendant qu'on trouve une autre option.
Tout à fait.
OK, bon. Monsieur Bastille, hier également, on a confirmé l'embauche d'une nouvelle directrice pour le service loisirs, culture et communautaire. On sait que Benoît Ouellet, qui occupe la fonction depuis plus de 20 ans, va bientôt prendre sa retraite. C'est Valérie Gauthier. On a quand même reçu 9 curriculum vitae. Est-ce qu'on est surpris de l'engouement qu'on a suscité avec l'ouverture de ce poste-là?
Ben écoutez, c'est sûr que il y a des postes, effectivement, à la ville qui sont plus convoités que d'autres. De recevoir 9 CV, ben oui, mais il y a une certaine époque, ça pouvait être 20 CV. Mais sauf que oui, on a eu 9 pour ce poste-là. Au niveau de la trésorière adjointe, on avait eu, je pense, c'est 5. Ça dépend tout le temps là des postes qui sont offerts, l'engouement des gens. Ben c'est sûr que le poste de directeur service loisirs et communautaires, c'est un poste qui peut être attrayant. C'est un poste, tous nos postes sont dynamiques à la ville, mais ça, c'est une grosse charge de travail. C'est un poste important. Donc, il y a peut-être des gens qui sentaient plus enclin, si on veut, appliquer sur ce poste-là. Vous faisiez allusion un peu plus tôt dans votre émission que au niveau du service du greffe, ben ça, c'est plus compliqué. Ouais. On avait eu quelques CV, mais par contre, il n'y a pas personne qui était retenu là-dedans. Donc, on va possiblement aller dans un deuxième appel de candidature, si on veut. Mais c'est ça.
Est-ce que c'est inquiétant? Vous parlez du service du greffe, j'allais en venir, mais est-ce que c'est inquiétant? Parce que présentement, à la ville de Rivière-du-Loup, il n'y a pas d'avocats qui sont actifs. Hier, on a confirmé un retour de congé de maternité quelque part au mois de février, mais à l'heure actuelle où on se parle, il n'y a pas d'avocats. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, parce que M. Deschênes était là pendant de nombreuses années. Par la suite, il y a eu Caroline Desjardins, mais est-ce que c'est inquiétant pour les citoyens de savoir que présentement, il n'y a pas d'avocats actifs à la ville de Rivière-du-Loup?
Non, je crois pas que les citoyens doivent s'inquiéter. À la ville, on va faire ce qu'on doit faire. C'est sûr qu'on aime bien quand on peut travailler directement à l'interne avec notre équipe. Là, dans les circonstances font qu'effectivement, on va avoir un retour de congé de maternité, je pense qu'il est prévu aux alentours du 20 février. C'est une avocate, donc elle va revenir à la ville. Présentement, c'est sûr que M. Rioux, lui, il est notaire. Donc, il est de bons conseils, mais il y a des choses là au niveau juridique. Quand ça requiert les services d'un avocat, ben on n'a comme pas le choix. À travers tout ça, ben on est quand même chanceux. Maître Desjardins, toujours ici à Rivière-du-Loup, a travaillé à la ville quand même pendant plusieurs années, donc connaît bien l'appareil municipal, peut nous rendre de fiers services. Mais en attendant, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de travailler avec l'externe, parce qu'à l'interne, on n'est pas capable de faire le travail. Mais écoutez, quand Maître Deschênes était là, ben oui, lui, il était avocat, mais il était seul aussi dans son département pendant plusieurs années. Jusqu'à l'arrivée de Maître Desjardins, lui, il a préparé la relève en même temps, mais on faisait recours aussi à des avocats à l'externe à l'époque de Maître Deschênes parce que il n'y avait pas le temps de tout faire. Fait que là, on regarde aussi, est-ce que ça prend un avocat absolument ou un notaire absolument pour être gestionnaire du département? C'est sûr que ça prend quelqu'un qui a des bonnes bases, si on veut, en ressources humaines, en comptabilité, parce que tu gères un budget. Puis que si à l'interne, on a déjà, mettons, un notaire, notre avocate qui va revenir, ben est-ce que ça peut être un gestionnaire? Ça, comme je vous dis, sans être avocat ou notaire, mais écoutez, c'est ça qu'on regarde. Là, on va, je sais qu'on se penche là-dessus, puis c'est sûr que l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un là le plus rapidement possible, mais en même temps, on veut pas prendre le premier venu ou la première venue. Fait que c'est pour ça que M. Lagacé, ben écoutez, je sais que ça y en fait beaucoup. Mais il est bien accompagné aussi présentement avec Marc-Antoine Rioux, là, qui est notaire, puis qui travaille déjà pour la ville de Rivière-du-Loup depuis plusieurs années. Donc, je pense les citoyens n'ont pas à s'inquiéter de ce qui se passe là, au niveau du service du greffe. L'équipe qui est là travaille fort, c'est une équipe consciencieuse, puis je suis convaincu qu'on va passer à travers, puis on va trouver le ou la candidate qu'il va nous falloir.
Également, lorsqu'on parle de projets qui coûtent beaucoup plus cher, hier, il a été question, puis c'est à la suite d'une question des citoyens, du parc Canin, qui est pratiquement passé du simple au double. Je me souviens qu'au départ, on parlait d'un projet, me semble que c'était aux alentours de 60 ou 70 000 $. Là, on est rendu avec un projet qui va coûter au-delà de 200 000 $. On a donné les raisons hier, notamment la fameuse clôture qui est passée de 21 000 à 62 000 $. L'éclairage qui passe de 15 000 à 42 000 $. Donc, est-ce qu'on a pensé à mettre ce projet-là de côté ou on est trop avancé pour dire non, là, à un moment donné, il faut y aller?
Bien, c'est sûr qu'on est avancé. Puis le terrain qu'on a là, il est disponible pour le faire. C'est une demande citoyenne, hein? C'est pas des élus, c'est pas l'équipe administrative à la ville qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'on ferait bien pour dépenser l'argent des citoyens. Tu sais, depuis 2013 que j'étais à la ville de Rivière-du-Loup. Ce projet-là, j'en ai entendu parler à toutes les années. Des citoyens qui venaient au conseil, qui appelaient des conseillers ou même le maire, la mairesse, disaient ben ça prendrait un parc canin. Puis, mais c'est sûr que là, bon, et malheureusement, bon, ça a augmenté les prix. Mais je pense que c'est un projet quand même sur l'ensemble d'un budget municipal que c'est de faire un parc canin à 200 000, tu sais, puis le monde dit ah c'est pour les chiens, ouais mais les chiens oui mais c'est les propriétaires d'animaux aussi, c'est ça leur rend service, fait que moi je pense que c'est important de le faire, puis moi je me souviens qu'on avait présenté un projet il y a plusieurs années, c'est dans mon premier mandat, puis on voulait le faire dans le secteur là à Saint-Ludger, pas loin, ben stationnement, on peut se rendre à la piste de ski de fond, en tout cas dans le secteur. Oui. Puis le projet était beaucoup plus ambitieux que ça, si on veut. Fait que ça a été revu à la baisse, puis on voulait avoir quelque chose de très, très simple. Là. Oui, ça prend des bains, bien évidemment. D'avoir de l'eau, c'est idéal aussi. Puis des clôtures, puis de la pelouse. T'sais, c'est à peu près dans ça qu'on veut aller. Puis c'est ce que M. Lagacé disait en séance hier. Hein. On parle de clôture froissée, c'est le gros montant est là. Mais après ça, les autres aménagements, ça tient quand même la route. Là, c'est sûr qu'au niveau service d'aqueduc et d'égout, ben il passe dans la rue, mais on va aller se connecter au service. Fait que c'est quelque chose qui sera fait pour longtemps. On peut utiliser déjà le bâtiment qui a été laissé là par Coéco suite au déménagement de l'éco-centre. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'investissement de bâtiment. Il est là, il est sur place. On va l'adapter, mais ça reste quand même une des modifications qui vont être minimes. Oui. Fait que, oui, on va de l'avant.
L'année 2023, M. Bassé, il s'annonce chargé à la ville de Rivière-du-Loup. Dossier de la traverse, j'imagine qu'on était impatient d'avoir les résultats de la STQ. Est-ce qu'on a eu un contact récent avec la STQ? Est-ce qu'on entretient des contacts récents avec la STQ dans le dossier de la traverse?
Non, on n'a pas eu de contact récent, je vous dirais, depuis le départ de M. Lafaux. Il y avait eu quelques contacts avec M. Lafaux, là, peut-être un mois ou deux avant qu'il quitte ses fonctions, parce qu'on a fait un comité de travail aussi, fait que on avait besoin de l'expertise des gens de la STQ avec nous, puis qu'on voulait en fin de compte qu'ils entendent ce qu'on avait à dire. Fait que on a pu avoir cette chance-là là, de travailler avec des gens de la STQ, mais comme tel, avec les hauts dirigeants, depuis la nomination de Mme Bédard, effectivement, moi, j'ai pas eu de contact avec elle. Là, on s'attend, en tout cas, on souhaite que l'étude d'opportunité puisse sortir comme prévu là au printemps 2023. On sait que printemps, là, ça va jusqu'au 21 juin. Fait que on souhaite, avant les vacances d'été, d'avoir une orientation puis une décision là-dedans. Mais c'est comme vous dites, c'est un gros dossier pour la ville de Rivière-du-Loup.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en jaser avec la nouvelle ministre des Transports?
Non, j'ai pas discuté de ce sujet-là avec Mme Guilbeault. Par contre, j'ai eu une rencontre dernièrement qui portait entre autres sur ce sujet-là de la traverse avec Mme Dionne, Amélie. Puis c'est sûr que dans les prochaines semaines, j'aimerais ça avoir une rencontre avec Mme Guilbeault que ça pourrait être en virtuel si on veut, mais au moins de faire un premier contact avec elle. C'est sûr que c'est l'objectif qu'on a.
Oui. Monsieur Bassé, deux questions avant de vous laisser aller. L'entrée ouest, j'ai l'impression que 2023, ça sera une grosse année. La semaine passée, on parlait d'un projet avec Dubé qui a l'intention de déménager dans le secteur ouest. Il y a toujours le projet d'un Canac également. J'ai l'impression que l'année 2023, ça pourrait être l'année des grands changements dans ce secteur-là, ou du moins le début pour éventuellement 2024 où il y aura comme des petits champignons qui vont pousser un peu partout dans ce secteur-là?
Oui, effectivement, ça grenouille beaucoup. Je sais qu'il y a des promoteurs qui sont propriétaires des terrains, qui ont déjà de la clientèle pour acheter. Nous, on va compléter les travaux là d'ici le mois de juin. Donc, les rues seront faites, les services seront rendus là. Fait qu'après ça, ben il va rester justement à vendre les terrains puis à construire. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ce secteur.
Est-ce que vous, en tant que maire, vous avez eu des contacts soit avec des promoteurs ou des dirigeants d'entreprises qui sont intéressés à s'établir dans ce secteur-là récemment?
Ben oui, on a eu des discussions, c'est évident. C'est sûr que, bon, moi, des promoteurs, je n'en rencontre, mais je n'en rencontre jamais seul. Moi, pour moi, c'est important d'avoir des membres de l'équipe avec moi. Il y a des discussions, c'est bien évident qu'il y a des gens qui... c'est un secteur qui est convoité, puis on attend ça avec grande impatience, mais ça sera les promoteurs privés à ce moment-là qui feront les annonces, mais ce que je peux vous dire, c'est sûr que ça grouille dans ce secteur-là.
Oui. Monsieur Bassé, avant de vous laisser aller, un mot sur la CMR. Je veux pas nécessairement qu'on revienne sur l'annonce de Pierre Fitzgibbon. Je pense qu'on a tout dit à ce sujet-là, mais hier, vous avez quand même apporté quelques précisions lorsque questionné par un citoyen, notamment sur l'investissement supplémentaire, de 1 million de dollars au total, 500 000 de la MRC, 500 000 du gouvernement du Québec. Est-ce que la Ville aurait pu investir de façon supplémentaire? Est-ce que la Ville a été interpellée à ce sujet-là? Parce que hier, j'ai l'impression que vous avez dit, du côté de la Ville, on n'avait pas l'intention d'ajouter un seul sou noir dans ce dossier-là pour l'instant.
Bien, écoutez, c'est il y a à peu près un an, en tout cas, je vois de mémoire, là, On avait injecté là 180 000 la ville, 180 000 la MRC. Bon, fait qu'on l'avait fait l'année passée. Là, moi, c'est sûr que c'était pas l'option qui était choisie de mon côté. Avec les élus, on avait discuté. Puis moi, ben, j'étais pas prêt à aller là-dedans parce que le problème que je vis finalement, c'est quand tu passes des résolutions qui concernent la CMR, ben c'est sûr que moi, je suis pas le gars ben à vouloir me fermer à la boîte, puis quand je le fais, ben je suis pas à l'aise. Fait que quand tu passes une résolution comme ça pour dire que tu vas donner, mettons, 250 000 à la CMR, ben là, tu sais, j'ai des questions des citoyens qui sont légitimes, j'ai des questions des journalistes qui sont aussi légitimes, mais là, je peux pas parler. Fait que moi, tu sais, c'était pas une option pour moi, c'est sûr, dès le début, puis... en fin de compte, c'est ça, c'est la MRC là, qui
a... Comment ça a passé auprès du président de la CMR? Est-ce que ça a été accepté, le fait que la ville de Rivière-du-Loup ne réinjecte pas d'argent cette fois-ci?
Oui, écoutez, c'est sûr que j'ai eu une discussion avec M. Lagacé à ce niveau-là, puis il comprend très bien, tu sais, moi, si à un moment donné, on me dit, Mario, ben, faut que tu te fermes la boîte, ben, Mario, ben, il passera pas de résolution dans le sens que il peut ouvrir des portes, justement, pour être... dans l'obligation de vouloir donner des réponses. Fait que non, ça a été bien accueilli de la part de M. Lagacé avec les membres du conseil de la MRC aussi. Ça a été expliqué. Puis écoutez, on a choisi, tu sais, il faut se dire que c'est un prêt aussi. Là. C'est pas un don. C'est sûr que c'est un prêt qui sera remboursable éventuellement quand que la CMR sera en mesure de produire le GNL puis qu'il y aura des bénéfices qui seront associés à ça, ben il y aura des remboursements qui seront faits d'une part pour le 180 000 de la ville qu'on a donné l'année passée, puis en même temps, après ça, au niveau de la MRC, là, le 500 000 $.
Vous avez mentionné également hier que, présentement, la situation financière de la CMR fait en sorte qu'on n'est pas en mesure d'avoir un directeur général, d'où l'implication qui est peut-être un peu trop importante du conseil d'administration.
Ben écoutez, c'est sûr que dans l'état actuel de dire on engage une direction générale, on s'entend qu'on trouvera pas quelqu'un à 50 000 $ par année. Donc, tu sais, si on mettrait une charge supplémentaire de 100 000 $, ben on n'était pas là. C'est sûr que on n'a pas fait nécessaire. Là, on a recruté quand même. On a quelqu'un, un directeur d'usine qui fait un excellent travail. Puis il est accompagné par les membres du conseil d'administration au niveau de la gestion administrative, là, c'est surtout ça. Au niveau aussi du développement des affaires, parce que c'est sûr qu'il faut toujours être en mode de se trouver de la nouvelle clientèle, c'est important. Faut augmenter notre gisement. Fait que c'est là-dessus que le conseil d'administration travaille. Mais c'est sûr que si on avait une direction générale, comme quand j'étais directeur général, ben au niveau administratif, la gestion justement de faire le développement des affaires, ben c'est le directeur général qui fait ça. Là, présentement, ben c'est sûr que les membres du CA sont beaucoup impliqués à différents niveaux, mais ça amène une charge de travail aussi pour le conseil d'administration. Mais tu sais, c'est un projet dans lequel on tient à cœur, puis dans lequel on veut qu'il y ait un aboutissement positif à ce dossier-là. On peut pas, je pense que rendu à cette étape-ci, on peut pas baisser les bras, au contraire. Puis il faut inviter nos citoyens à participer davantage à la collecte des matières putrescibles. Je pense que c'est une solution d'avenir, quoi que certains en disent, mais c'est là. D'ici 2025, si je me trompe pas, je pense que c'est le 31 décembre. Bon, ça a été ce qui nous a joué des tours, c'est que ça a été reporté à plusieurs moments. À un moment donné, le ministère de l'Environnement disait qu'on pouvait plus enfouir les matières putrescibles. Puis c'était en 2019-20. Après ça, bon, on est rendu en 2025. Mais c'est important parce que ce qui va arriver, c'est qu'on pourra plus les enfouir. Puis comme on répète depuis longtemps, c'est le bac brun présentement qui coûte le moins cher aux citoyens. Donc ça prend un volume là-dedans. Puis je pense que il faut pas que les gens boudent la CMR parce qu'ils manquent d'informations. C'est un service public qu'on rend présentement. Puis oui, c'est sûr que ça va prendre plus de transparence. Je l'ai dit dès le début. Malheureusement, je suis comme un peu coincé pour amener de l'information. Mais c'est pas parce que les gens savent pas, mettons, c'est quoi le déficit total que c'est moins. Il faut qu'ils arrêtent de contribuer à la collecte. C'est au contraire. Je pense qu'on a besoin de ça, puis ça sera un succès de notre communauté. Si les gens embarquent, qu'ils nous appuient là-dedans, puis qu'on monte notre volume, ben c'est sûr que tantôt, quand on produira le GNL, ben ça sera quelque chose de le fun, puis il y aura des retombées dans le sens qu'on va être capable d'offrir un service de qualité. Puis c'est ça. Faut pas abandonner.
Merci beaucoup, M. Bastille.
Ben, ça me fait plaisir.
Bonne prochaine. Bye-bye. Donc, Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup.